un arbre de Noël et un mariage. Fédor Dostoïevski. J'ai vu ces jours-ci un mariage. Mais non, je vais plutôt vous raconter une histoire d'arbre de Noël. Le mariage était beau, il m'a beaucoup plu, mais l'autre histoire est meilleure. Je ne sais pas ce qui, en regardant cette noce, m'a rappelé ce sapin de Noël. Voici comment cela s'est passé. Il y a juste 5 ans, pour la veille du Nouvel An, j'avais été invitée à un bal d'enfants. L'invitant était un personnage connu dans les affaires, nanti de relations, de connaissances, d'intrigues, en sorte qu'il y avait lieu de penser que le bal d'enfants en question était pour les parents un prétexte à petit comité et conciliabule innocent, fortuit, impromptu sur telle ou telle intéressante matière. Moi, j'étais un profane, je n'avais pas de matière à discuter. Aussi passais-je la soirée de façon assez indépendante. Il y avait là encore un monsieur qui semblait n'avoir, lui non plus, ni attache ni parenté, mais qui, comme moi, s'était trouvé là pour la fête de famille. C'est lui qui me sauta d'abord aux yeux. C'était un homme grand, maigre, fort sérieux, fort convenablement vêtu. Mais il était visible qu'il n'éprouvait pas le moindre intérêt pour les joies de cette fête familiale. Quand il se retirait dans un angle, son sourire s'éteignait aussitôt et il fronçait ses épais sourcils noirs. Il ne connaissait pas une âme dans tout ce bal, hormis le maître de maison. Il était manifeste qu'il s'ennuyait à mort, mais qu'il tenait bravement, jusqu'au bout, le rôle d'invité parfaitement heureux et diverti. Je devais apprendre ensuite que c'était un monsieur de province qui avait je ne sais quelle affaire très importante et très compliquée dans la capitale, qui avait apporté à notre hôte une lettre de recommandation auquel notre hôte ne donnait nullement sa protection con amore et qu'il n'avait invité à ce bal d'enfants que par politesse. On ne jouait pas aux cartes, on ne lui offrait pas de cigares, personne n'entrait en conversation avec lui, sans doute reconnaissant de loin l'oiseau à son plumage, en sorte que le monsieur en question en était réduit, pour savoir que faire de ses mains, à caresser toute la soirée ses favoris. Favoris qui étaient effectivement fort beaux. Mais il les caressait avec une telle application qu'à le regarder, on pouvait véritablement penser que les favoris avaient été tout d'abord mis au monde avant qu'il fût annexé un monsieur pour les caresser. Outre ce personnage, qui avait cette manière à lui de prendre part au bonheur familial du maître de maison, lequel avait 5 petits garçons florissants, il y avait encore un monsieur qui me plut. Mais celui-ci était d'une toute autre qualité, c'était une personnalité. On l'appelait Julien Mastakovitch. Il sautait aux yeux, au premier regard, qu'il était ici l'invité d'honneur, et qu'il était, avec le maître de séance, dans le même rapport que celui-ci avec le monsieur qui caressait ses favoris. Le maître et la maîtresse de maison le comblaient d'amabilité, s'empressaient autour de lui, lui offraient à boire, le flattaient, lui amenaient leurs invités pour les lui présenter, et ne le présentaient lui-même à personne. Je vis s'embuer les yeux du maître de maison quand Julien Mastakovitch exprima sur cette soirée l'opinion qu'il avait rarement passé le temps de manière aussi agréable. Quant à moi, je fus en quelque sorte pris de peur en présence d'un si haut personnage et c'est pourquoi, après m'être amusé au spectacle des enfants, je m'en allai dans un petit salon qui était désert et je m'y assis dans le boudoir fleuri de l'hôtesse qui occupait près de la moitié de la pièce. Les enfants étaient tous incroyablement mignons. Ils se refusaient résolument à ressembler aux grandes personnes, en dépit de toutes objurgations des gouvernantes et des mamans. Ils avaient en un clin d'œil dégarni le sapin de Noël jusqu'au dernier bonbon, et déjà trouvé moyen de démolir la moitié des jouets, avant même de savoir à qui d'entre eux chacun était destiné. J'aimais particulièrement un petit garçon aux yeux noirs, tout bouclé, qui voulait absolument me fusiller avec son fusil de bois. mais celle qui attirait le plus l'attention, c'était sa sœur. Une fillette de quelque 11 ans, ravissante comme un amour, silencieuse, pensive, palote, avec de grands yeux songeurs largement ouverts. Les enfants avaient dû lui faire quelque offense et elle s'était retirée dans le même petit salon où je me trouvais déjà. Elle s'occupait dans un coin avec sa poupée. Les invités se désignaient avec respect à un riche concessionnaire, le père de la fillette, et se disaient à l'oreille qu'il avait déjà mis de côté pour sa dot 300 000 roubles. Je m'étais retournée pour regarder ceux que cette circonstance intéressait tellement, et mon regard était tombé sur Julien Mastakovitch, qui, les mains derrière le dos et la tête légèrement inclinée de côté, paraissait prêter une extraordinaire attention au bavardage de ces messieurs. Ensuite, je n'avais pu m'empêcher d'admirer la sagesse des maîtres de séance dans la distribution des cadeaux aux enfants. La fillette, qui avait d'avance 300 000 roubles de dot, avait reçu une splendide poupée. Venaient ensuite des cadeaux, dont la valeur allait diminuant à mesure que baissait le rang des parents de tous ces heureux enfants. À la fin, le dernier enfant, un garçonnet d'une dizaine d'années, maigrichon, tout petit, roux, tout en taches de rousseur, avait reçu, en tout et pour tout, un livre de contes où il était parlé de la majesté de la nature, de larmes attendries, et ainsi de suite, sans illustration, sans même le moindre cul de lampe. C'était le fils de la gouvernante des enfants de Séan, une veuve sans fortune, un garçonnet on ne peut plus effacer. Et effarouché. Il portait une blouse de modeste nankin. Ayant reçu son livre, il avait longuement tourné autour des autres jouets. Il avait terriblement envie de jouer avec les autres, mais n'osait pas. Il était visible qu'il sentait et comprenait déjà sa position. J'aime beaucoup observer les enfants. C'est une chose extrêmement curieuse que leur première manifestation indépendante dans la vie. J'avais remarqué que le garçonnet roux était à ce point séduit par les riches jouets des autres enfants, surtout par le théâtre où il avait une folle envie d'assumer quelques rôles, qu'il avait pris le parti de faire quelques bassesses. Il souriait et faisait des avances aux autres. Il fit cadeau de sa pomme à un gros garçon bouffi, déjà pourvu d'une pleine pochette de friandises, et il alla jusqu'à en porter un autre sur son dos, uniquement pour ne pas être tenu à l'écart du théâtre. Mais, un peu plus tard, un polisson le rossa vigoureusement. Le garçonnet n'osa pas pleurer. À ce moment, apparut sa mère, la gouvernante, et elle lui défendit de gêner les jeux des autres enfants. Le bambin entra dans le petit salon où était la fillette. Celle-ci le laissa venir à elle, et tous deux se mirent avec beaucoup d'application à arranger la riche poupée. Il pouvait y avoir une demi-heure que j'étais assis sur le canapé du boudoir, et je sommeillais presque en écoutant le petit babillage du garçonnet roux et de la jeune beauté aux 300 000 roubles de dot, tout occupés à leur poupée, quand entra dans la pièce Julien Mastakovitch. Il avait profité du petit scandale d'une dispute d'enfants pour quitter tout doucement le grand salon. Je l'avais aperçu une minute plus tôt, discutant avec beaucoup d'animation avec le papa de la future riche épousée, de qui il venait tout juste de faire la connaissance, sur la supériorité de je ne sais quelle fonction publique par rapport à une autre. Il était maintenant plongé dans ses pensées et paraissait compter quelque chose sur ses doigts. « 300, murmurait-il, 11... 12, 13, 14, 15, 16, 5 ans. Mettons à 4%, ça fait 12 000. 5 fois, nous disons 60, plus c'est 60 000. Mettons au total dans 5 ans, 400 000. Oui, c'est ça. Ce n'est sûrement pas du 4% avec lui, le filou. Peut-être bien du 8 ou du 10%. Bon... 500, mettons 500 000 sûrement, et pour le moins, bon, un petit supplément pour le trousseau. Il sortit de ses réflexions, se moucha, et allait déjà quitter la pièce quand il vit soudain la fillette et s'arrêta. Il ne me voyait pas, derrière les pots de plantes vertes. Il me parut extrêmement agité. Était-ce son calcul qui l'avait impressionné ou bien était-ce quelque chose d'autre? Il se frottait les mains et ne tenait pas en place. Ce trouble grandit jusqu'au nec plus ultra quand, s'étant arrêté, il jeta sur la future fiancée un second regard qui disait sa décision. Il fut pour s'avancer vers elle, mais regarda d'abord autour de lui. Puis, sur la pointe des pieds, comme se sentant en faute, il s'approcha de l'enfant. Il souriait, se pencha et lui mit un baiser sur la tête. La petite, surprise de cet assaut, poussa un cri d'effroi. « Et que faites-vous là, mignonne enfant ?» demanda-t-il tout bas, toujours regardant tout autour et tapotant la joue de la fillette. « On joue ?»« Ah, avec lui ?» Julien Mastakovitch loucha sur le garçonnet. « Toi, mon petit, tu devrais aller au salon, » lui dit-il. Le petit garçon ne disait mot et le regardait de tous ses yeux. Julien Mastakovitch eut encore un regard circulaire et de nouveau se pencha vers la fillette. « Et qu'est-ce que vous avez là? Une poupée, ma mignonne ?»« Une poupée ?» répondit-elle, fronçant les sourcils et un peu intimidée. « Une poupée? Et savez-vous, mignonne, de quoi elle est faite, votre poupée ?»«
Je ne sais pas, »
répondit la fillette à voix basse et la tête tout à fait baissée. Elle est faite de chiffon, ma jolie. Toi, tu devrais t'en aller au salon, mon garçon, avec ceux de ton âge, dit Julien Mastakovitch avec un coup d'œil sévère. La fillette et le garçonnet faisaient la moue et s'étaient pris par la main. Ils n'avaient pas envie de se séparer. Et saviez-vous pourquoi on vous a donné cette poupée? Demanda Julien Mastakovitch, baissant de plus en plus la voix.
Je ne sais pas.
« C'est pour que vous soyez une petite fille bien gentille et bien sage toute la semaine. » Là-dessus, Julien Mastakovitch, ému à la limite du possible et toujours anxieux de n'être ni vu ni entendu, demanda enfin d'une voix à peine audible, presque mourante d'émotion et d'impatience. « Est-ce que vous m'aimerez bien, mignonne fillette, quand je viendrai en visite chez vos parents ?» Sur ces mots, Julien Mastakovitch voulut encore une fois embrasser la gentille enfant. Mais le garçonnet roux, qui la voyait sur le point de pleurer, la saisit par la main et se mit à pleurer lui aussi par sympathie pour elle. Julien Mastakovitch se mit sérieusement en colère.
« Va-t'en d'ici! Va-t'en d'ici, oust !» dit-il au garçonnet. « Va-t'en au salon! Va retrouver ce ton âge !»«
Non !» Il ne faut pas, il ne faut pas, allez-vous-en,
dit la fillette.
Laissez-le, laissez-le,
dit-elle, déjà en larmes. Il y eut un bruit à la porte et Julien Mastakovitch sursauta et redressa son imposante corpulence. Mais le petit garçon roux, encore plus effrayé que Julien Mastakovitch, abandonna la fillette et sans bruit, rasant les murs, passa du petit salon dans la salle à manger. Pour ne pas éveiller de soupçons, Julien Mastakovitch se rendit aussi à la salle à manger. Il était écarlate et, se voyant au passage dans un miroir, parut assez confus de lui-même. Peut-être s'en voulait-il de son accès de fièvre et d'impatience. Peut-être son calcul mental du début l'avait-il tellement impressionné, tellement séduit et transporté qu'il en avait oublié sa majesté et sa gravité pour agir comme un gamin en abordant tout droit son objet, oubliant aussi que l'objet, précisément, ne serait effectivement objet qu'au moins 5 ans plus tard. Je suivis l'honorable personnage dans la salle à manger et fus témoin d'un singulier spectacle. Julien Mastakovitch, cramoisi de rancune et de colère, houspillait le petit garçon roux qui, cherchant à s'éloigner le plus possible de lui, ne savait plus où se sauver de terreur.
« Va-t'en ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Va-t'en, polisson, va-t'en ! Tu viens chiper des fruits, hein ? Tu viens ici chiper des fruits ? Va-t'en, polisson, va-t'en, morveux, va-t'en rejoindre ceux de ton âge ! »
Le garçonnet, épouvanté, réduit aux ressources du désespoir, tenta de se fourrer sous la table.
Alors, son persécuteur, au comble de l'exaspération, sortit son vaste mouchoir de batiste et se mit à en fouetter l'air pour chasser l'enfant, qui, sous la table, se faisait aussi petit que possible. Il faut dire ici que Julien Mastakovitch était assez corpulent. C'était un homme bien nourri, florissant, bien en chair, avec un petit ventre et de fortes cuisses. En un mot, ce qui s'appelle un pot à tabac, rond comme une noix. Il suait, soufflait et s'empourprait à faire peur. Il finit par ne plus se connaître de rage tant était grande son indignation et peut-être, qui sait, sa jalousie. Je ne me retins pas d'éclater de rire. Julien Mastakovitch se retourna et, en dépit de toute son importance, fut écrasé de confusion. À ce moment, entra, par la porte opposée, le maître de maison. Le petit garçon sortit de dessous la table, en essuyant ses genoux et ses coudes. Julien Mastakovitch se hâta de porter à son nez le mouchoir qu'il tenait par un coin. L'hôte nous regarda tous trois avec quelque surprise, mais, en homme qui sait vivre et prendre la vie par le côté sérieux, profita tout aussitôt de ce qu'il tenait son invité en tête à tête. « Voici justement, monsieur, dit-il en désignant le petit rouquin, le garçonnet pour qui j'ai eu l'honneur de vous prier. Vous dites ?» répondit Julien Mastakovitch, qui n'avait pas encore repris tout à fait ses esprits. « C'est le fils de la gouvernante de mes enfants, » poursuivit l'hôte du ton de la sollicitation. « Une femme sans fortune, veuve d'un honorable fonctionnaire. Aussi, Julien Mastakovitch, si c'est possible... »«
Ah non, non !»
s'écria précipitamment Julien Mastakovitch.
« Non, excusez-moi, Philippe Alexeïevitch, c'est absolument impossible !» Je me suis renseigné, il n'y a pas de vacances, et même s'il y en avait, il y a déjà 10 candidats qui ont bien plus de droits que lui. Je regrette beaucoup, je regrette beaucoup.
C'est dommage, dit le maître de maison. C'est un garçon tellement modeste, tellement tranquille.
Un polisson, oui, d'après ce que je remarque, répondit Julien Mastakovitch avec une grimace rageuse. Va-t'en, gamin, qu'est-ce que tu fais là? Va retrouver ceux de ton âge!
Ajouta-t-il en s'adressant à l'enfant. Il ne put sans doute se retenir, se disant, de jeter un regard vers moi. Je ne pus me retenir à mon tour et je lui éclatais de rire en plein visage. Julien Mastakovitch se détourna aussitôt et demanda au maître de maison, assez haut pour que je pusse l'entendre, qui était donc ce bizarre jeune homme. Ils sortirent en se parlant à voix basse. Je vis ensuite Julien Mastakovitch, en entendant son interlocuteur, hocher la tête d'un air de méfiance. Ayant ri mon content, je rentrai dans la salle de réception. Là, le grand homme, entouré des pères et mères de famille, du maître et de la maîtresse de maison, faisait un discours plein d'ardeur à une dame à laquelle on venait de le présenter. La dame tenait par la main la fillette avec laquelle, 10 minutes auparavant, Julien Mastakovitch avait eu la scène du petit salon. Maintenant, il se répandait en louanges et en dithyrambes sur la beauté, les talents, la grâce et la bonne éducation de la charmante enfant. Il faisait visiblement sa cour à la maman. La mère l'écoutait, les yeux humides de ravissement, les lèvres du père souriaient. Le maître de maison était tout heureux de cet épanchement de contentement général. Les invités eux-mêmes sympathisaient. L'atmosphère était chargée d'extase attendrie. J'entendis ensuite la mère de l'intéressante fillette, touchée jusqu'au fond du cœur, prier en termes choisis Julien Mastakovitch de lui faire le tout particulier honneur de gratifier leur foyer de sa précieuse amitié. J'entendis Julien Mastakovitch accepter l'invitation avec un enthousiasme non fin. J'entendis enfin les invités, quand ils se séparèrent, dans les formes exigées par les convenances, pour aller chacun de son côté, chanter à l'envi avec attendrissement les louanges du gros concessionnaire, de sa femme, de leur fillette et surtout de Julien Mastakovitch.
Il est marié, ce monsieur ? Demandai-je presque à haute voix à l'un de mes amis qui se trouvait le plus près de Julien Mastakovitch. Celui-ci me lança un coup d'œil interrogatif et furieux.
« Non !»
répondit mon ami, scandalisé jusqu'au fond du cœur de l'impair que je venais de commettre délibérément. Je passais récemment devant l'église de Saint-N. Je fus frappé de voir la foule qui s'y pressait. On y parlait de mariage. La journée était grise, la gelée blanche commençait. Je me glissais parmi la foule dans l'église et je vis le marié. C'était un petit homme tout rond, bien nourri, avec un petit ventre, très décoré. Il courait, s'affairait, donnait des ordres. Enfin, le bruit courut qu'on amenait la fiancée. Je me frayai passage à travers la foule et je vis une jeune fille d'une merveilleuse beauté, tout juste à son premier printemps. Mais la jeune épousée était pâle et triste. Ses regards étaient distraits. Il me sembla même que ses yeux étaient rougis de pleurs tout récents. La pureté antique de chaque trait de son visage donnait à sa beauté je ne sais quoi de grave et de solennel. Mais à travers cette pureté de ligne et cette gravité, à travers cette tristesse, transparaissait encore la première innocence de l'enfance. On lisait sur ce visage quelque chose d'infiniment naïf, de non encore fixé, de puéril, quelque chose qui semblait de soi-même, sans prière, demander grâce. Quelqu'un dit qu'elle avait à peine passé 16 ans. En regardant attentivement l'heureux époux, je reconnus soudain Julien Mastakovitch, que je n'avais pas revu depuis exactement 5 ans. Mes yeux revinrent à elle. Grand Dieu ! Je sortis au plus vite de l'église. On disait dans la foule que l'épousée apportait 500 000 roubles de dot, plus tant sous forme de trousseau. Tout de même. Le calcul était bon, me disais-je en me frayant le passage vers la rue.
Прилетіла ластівочка.